France Inter.
Bonjour à tous. Son nom est à nouveau à la une de l'actualité depuis un mois et demi. Notre-Dame de Bétarame, dans les Pyrénées-Atlantiques, cet établissement catholique privé où des violences, des agressions sexuelles et des viols se sont déroulés durant 60 ans. Bonjour Marion Aquilina.
Bonjour.
Alors en partenariat avec ICI Béarn Bigorre, vous avez enquêté et retrouvé les témoins clés de ce scandale qui comporte une dimension également politique avec cette question. Que savait l'actuel Premier ministre François Bayrou comme élu du Béarn, parent d'élève et ancien ministre de l'Éducation nationale?
Secret d'info, Benoît Colomba sur France Inter.
Je pense en ce moment à tous ces coups, à ces humiliations répétées du perron où nous attendions, terreur au ventre et nez contre le mur, le tabassage en règle à venir. Et à toutes ces agressions sexuelles. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés.
Les mots déchirants du porte-parole des victimes de Notre-Dame de Bétarame, Alain Esquer, c'était le 15 février dernier devant la mairie de Pau, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre François Bayrou. On va revenir en détail sur les coulisses de cette affaire qui a pris une nouvelle ampleur depuis la publication d'un article le mois dernier par Mediapart. Mais avant d'aller plus loin, Marion Aquilina, il faut d'abord expliquer ce que représente exactement Bétarame.
C'est un établissement privé catholique sous contrat situé entre Lourdes et Pau dans la commune de l'Estelle-Bétarame. Fondé au 19e siècle, il a été rebaptisé le Beau-Rameau, c'était en 2009. Bétarame affiche d'excellents taux de réussite au bac, il a toujours été très réputé pour cela, estime l'ancien évêque de Bayonne, Mgr Pierre Moller.
C'était un collège très bien coté, on savait qu'il avait une discipline rigoureuse, c'est la raison pour laquelle beaucoup de parents, pas simplement du Béarn, mettaient leurs enfants là pour un peu réduire la personnalité frondeuse de leurs adolescents.
Une discipline rigoureuse, c'est ce qui est effectivement affiché par l'école, mais ça va beaucoup plus loin.
Oui, et ça, des enseignants en ont été témoins. C'est le cas d'Alain Bourillon, professeur de français latin pendant 18 ans à Bétarame, de 1973 à 1991.
J'ai constaté très vite après mon arrivée qu'il régnait un climat de violence généralisée, de système de pression, d'emprise que certains avaient sur les élèves, notamment certains surveillants. C'était des violences à tout bout de champ, des humiliations, des remarques, on rabrouait les élèves, on leur donnait des claques, enfin bref. C'était visible et c'était extrêmement dérangeant pour moi à l'époque parce que j'étais très jeune, j'avais 21 ans et je me demandais comment on pouvait traiter les élèves comme ça.
Et ce système de pression et de violence, il repose évidemment sur des hommes.
À commencer par les directeurs, mais aussi les surveillants qu'on appelle préfets de discipline à Bétarame. Alain Bourillon en a connu un particulièrement redoutable.
C'était un homme froid comme un serpent. Il avait une puissance de frappe extraordinaire. J'ai eu des témoignages qui m'ont été rapportés d'élèves qui ont carrément pris un poing dans la figure. Et quand il convoquait quelqu'un dans son bureau, il arrivait qu'on entende de l'extérieur les coups qu'il donnait à l'intérieur. Et quand on lui demandait parfois une autorisation pour passer un film qui intéressait les élèves, la réponse était que non. Alors on dit mais pourquoi ? Parce que. Il faisait la loi et il était même plus fort que le directeur.
Et parmi les châtiments corporels qui étaient régulièrement utilisés, il y avait notamment celui-là.
De mettre un élève à genoux sur une clé carrée, avec deux dictionnaires dans les bras tendus. Et si les bras baissaient et que le dictionnaire tombait, l'élève prenait une claque. Et ça durait un certain temps.
Et Marion, c'est tout le quotidien de Bétarame qui était en fait rythmé par ces brimades.
Oui, et ceux qui sont le mieux placés pour en parler, ce sont sans doute les élèves comme Marc Lacoste-Séris. Il a été interne comme collégien en 1995 et 96 à Bétarame.
Quand je suis arrivé là-bas, c'était le fait d'avoir deux douches par semaine, chronométré. Voilà, on avait notre directeur qui ouvrait les vannes, qui disait 30 secondes, 45 secondes, je ne sais plus, le temps de se mouiller. On avait peut-être une minute pour se savonner. Et on sortait de là, et on avait encore du savon dans les cheveux, on finissait de se laver dans le dortoir. Et à chaque dortoir était rangé en ligne, et voilà, s'il y en avait un qui avait envie de rigoler encore, qui sortait la tête du rang, il en prenait une. Voilà, on prenait des cocos, des tartes, un surveillant lycéen qui nous supervisait pour 50 gamins. Bon, on n'était pas enfants pleinement.
Donc ce qu'on entend là, c'est que cette violence, elle venait aussi de lycéens surveillants au sein même de l'établissement.
Et là-dessus, écoutez à nouveau l'ancien prof de français latin, Alain Bourillon.
Le système est tellement pervers que les élèves brutalisés devenaient eux-mêmes des brutes. C'est-à-dire qu'il y avait parmi eux des élèves qui devenaient des lycéens et à qui parfois on confiait le rôle de surveillant lycéen. Et on s'est rendu compte que certains élèves étaient eux-mêmes devenus des tortionnaires vis-à-vis de leurs camarades. Autrement dit, il y avait toute une sorte de chape de silence, de chape de plomb, qui faisait que, c'est évident que les tortionnaires n'allaient pas parler, même s'ils avaient été eux-mêmes victimes de choses terribles, et les petites victimes n'osaient pas en parler, d'abord parce qu'ils avaient honte, quand ça leur était arrivé, et puis que parfois, quand ils en parlaient, on leur disait « enfin, tais-toi, tu dis des mensonges ».
Et cette brutalisation, un autre ancien élève de Bétaram, Rodolphe, en a lui aussi été la victime et le témoin. Il était pensionnaire de 83 à 88.
La violence est quelque chose qui est conceptuel à Bétaram. C'est le quotidien. Alors, plus vous montez dans les classes, moins elle existe. Mais la violence est le quotidien, comme la torture psychologique. C'est construit comme ça, Bétaram.
Ah oui, donc selon lui, les plus grands seraient plus protégés ?
C'est en tout cas ce que Rodolphe a constaté.
C'est plus difficile de s'attaquer à des premières, et surtout pas aux terminales, parce que c'est eux qui font le résultat du bac. Donc eux, ils sont chouchoutés, on leur dit pas grand-chose. On peut même avoir l'alcool dans les pioles. Au fur et à mesure que vous montez dans Bétaram, le comportement diffère.
Bon, et cette violence qui semble bien installée, comment on peut l'expliquer ?
En fait, elle s'inscrit dans une culture et une histoire qui remonte au XIXe siècle, comme l'explique l'historien de l'éducation Claude Lelièvre.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas automatiquement des dérives personnelles de sadomasochistes. Au fond, c'est tout un système. On voit bien que là, on a une idéologie éducative où l'obéissance à un homme comme représentant de Dieu sur Terre est centrale. Nous avons là une légitimité de l'obéissance par tous les moyens et à tout prix. Cet horizon éducatif a quand même été au fondement de ce qui est permis de faire, non seulement permis, mais légitime de faire, en ce qui concerne les congrégations masculines.
Et face à un tel système, c'est difficile de résister pour les professeurs.
Oui, et Alain Bourillon en a fait l'amère expérience. Dans les années 80, il décide de dénoncer dans un rapport le comportement d'un religieux qui maltraite ses élèves.
J'avais pris des noms et je leur avais demandé s'ils étaient prêts à témoigner avec moi contre lui. Et les gamins m'avaient dit oui, et moi j'étais très fier de moi. Je m'étais dit, ça y est, celui-là au moins on le tient. Et j'étais allé voir le directeur, je lui avais dit voilà, je veux vous voir parce que j'ai des choses très graves à vous dire à propos de monsieur un tel. Bien, bon, d'accord, on prend rendez-vous.
Sauf que quelques jours plus tard, Alain Bourillon apprend que le religieux surveillant en question a jeté le livre d'un de ses élèves par la fenêtre.
Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai laissé les élèves et je suis monté à l'étude où se trouvait le surveillant. Et j'ai attrapé le surveillant entre quatre yeux et je lui ai dit « Tu as jeté un livre de mes élèves par la fenêtre. » Et puis j'enchaîne en lui disant « Et puis je sais que tu donnes des coups aux élèves et ça ne va pas se passer comme ça pour toi. » Et il me dit « Mais je fais ce que je veux, je suis chez moi dans les dortoirs. » Je dis « Non, tu ne fais pas ce que tu veux, il y a des lois qui protègent les enfants. Et nous nous verrons chez le directeur. »
Et comment ça se termine alors cette histoire ?
Eh bien, c'est le professeur qui se retrouve finalement convoqué. Le directeur le menace d'une plainte à l'inspection académique pour avoir abandonné sa classe. Et pour y échapper, Alain Bourillon est alors obligé de présenter ses excuses auprès du religieux surveillant qui martyrisait ses élèves.
Ah, j'ai cru que j'allais mourir de colère, de rage, de honte. Enfin. Et donc, j'ai déchiré mon rapport. C'était même plus la peine d'en parler. Et je suis allé chez le directeur et je me suis excusé devant cette espèce de déchet humain. Mais je vous avoue que j'en ai pleuré en sortant. Voilà, ça c'était Bétaram. La façon de faire que l'accusateur se retrouve accusé.
France Inter, Secret d'info.
Et Marion Aquilina, il y a une autre enseignante qui a tenté elle aussi d'alerter dans cette affaire.
Elle s'appelle Françoise Gulung, professeure de mathématiques de 1994 à 1996 à Bétaram. Elle raconte qu'elle a croisé l'épouse de François Bayrou qui enseigne le catéchisme dans l'établissement.
En sachant qu'à cette époque, François Bayrou est ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
Oui, et Françoise Gulung, elle vient tout juste d'arriver à Bétaram.
J'ai croisé Madame Bayrou dans un couloir et sur ma gauche, il y avait une classe où on entendait un adulte battre un élève. On entendait les coups, on entendait les hurlements de l'adulte et on entendait les pleurs de l'élève qui demandait grâce. Quand on a vu ça la première semaine ou à peu près, vous imaginez que ça vous marque. L'adulte hurlait après l'enfant, on entendait les claques et le gamin pleurait et disait « Arrête, j'ai mal !» Et j'étais tellement scotchée que je dis à Elisabeth Bayrou qui arrivait en face de moi « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et elle n'a pas compris. Elle m'a répondu simplement « Mais il n'y a rien à faire, ces enfants sont insupportables, il n'y a rien à en tirer, c'est tout. »
Je précise que nous avons contacté l'épouse de François Bayrou, mais elle n'a pas souhaité nous répondre.
Et cette ancienne professeure de mathématiques, elle raconte avoir également tenté d'alerter François Bayrou sur le sujet.
Oui, lors d'une remise de médaille et dans un courrier adressé au Conseil général sans obtenir de réponse selon elle. François Bayrou, lui, dément. Et Françoise Gulung écrit également à la direction diocésaine.
J'ai été convoquée par la personne du diocèse qui était responsable des établissements localement et qui m'a vivement conseillé de ne pas faire de vagues, quoi. Ils ont dit « Oh, c'est peut-être un peu exagéré, c'est des cas particuliers. » Puis de toute façon, vous savez, si vous voulez rester dans l'enseignement catholique, hein, il vaut mieux ne pas se mêler de ces choses-là.
Oui, il vaut mieux ne pas s'en mêler, mais elle continue quand même d'en parler à ses élèves.
Et oui, en leur donnant même le numéro d'urgence à appeler en cas de violence.
Je les ai encouragés quand même à ne pas trop se laisser faire. Et si ça t'arrive, ben, tu sais que tu peux aller à la cabine téléphonique, appeler le 119. Et je vous conseille aussi d'en parler à vos familles. Et là, il y en a un, deux, trois, je ne sais pas combien, qui m'ont dit « Mais moi, je ne peux pas en parler à mes parents, ils ne me croiront pas. »
J'ajoute que selon Françoise Gulung, une infirmière de Bétaram était également au courant et qu'elle aussi a tenté d'alerter. Nous avons échangé avec cette infirmière aujourd'hui à la retraite. Elle nous a simplement dit avoir été interrogée par la police à l'époque, mais elle ne souhaite pas s'exprimer publiquement aujourd'hui.
Et ce qu'on entend dans le témoignage de ce professeur de mathématiques, Françoise Gulung, c'est la difficulté pour ces enfants victimes de violences de parler à leurs parents.
Oui, parce qu'on l'a dit, Bétaram, c'est une institution qui pèse, en laquelle tout le monde avait confiance, surtout les adultes. Écoutez cette ancienne mère d'élève qui s'est confiée à Najet Essadouki, journaliste à Ici Béarn Bigorre. Son fils était collégien à Notre-Dame de Bétaram dans les années 90.
Il s'est tué pendant 28 ans. C'est terrible ça. J'aurais dû peut-être être alertée par certaines choses. Je ne l'ai pas été. Un jour, on frappe à ma porte à 7h du matin à Pau. C'était mon fils qui s'était échappé de Bétaram. Ils étaient rentrés à pied dans la nuit avec deux copains. Il frappait à ma porte à 7h du matin en disant « on est parti de Bétaram ». Mais il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit pourquoi. C'est vrai que je n'ai pas creusé le sujet à l'époque. J'ai peut-être même dû l'engueuler. Plus tard, j'ai fait une lettre à son médecin puisqu'il avait des maux de tête. Je notifiais au médecin dans ma lettre qu'il se plaignait de douleurs anales. Là, il me dit « mon fils, mais t'as pas percuté ce qui m'arrivait ». J'ai dit « non ». Jamais je n'aurais imaginé qu'en mettant mon fils dans une institution privée sous tutelle de l'État, il lui arriverait de tels sévices.
Et donc, ces sévices, on l'entend, ils concernent aussi des agressions sexuelles et des viols.
Oui, et ça remonte à loin. Jean-Marie Delbos a été interne à Bétaram de 1956 à 1962 et il raconte qu'un prêtre l'a violé.
En 1957 est arrivé un jeune prêtre qui, la nuit, profitait qu'on soit endormi. Il était sous tente ouverte et il venait sous les draps masturber et faire une fellation. Et quand il avait fini, il prenait un autre lit. Et comme on était terrorisés, on ne bougeait pas. On était là, on regardait le prédateur aller de lit en lit. Et au bout de quelques années, on s'est dit entre nous, on ne peut pas continuer, on va aller voir notre directeur de conscience et à qui on racontait nos misères. La direction de Bétaram est venue chez moi, voir ma grand-mère, et ils ont menacé ma grand-mère de lui saisir ses maigres biens si cette affaire avait une suite.
Bien des années plus tard, Jean-Marie Delbos finira par être indemnisé par la commission reconnaissance et réparation créée pour aider les personnes victimes de violences sexuelles au sein de l'Église.
Oui, donc cet homme a été l'un des premiers enfants à oser parler dans cette affaire, mais il y en a eu d'autres.
Oui, en janvier 1995, un élève de 14 ans est frappé par un surveillant, une gifle monumentale, il perd 40% de son audition. Cet adolescent, c'est Marc Lacoste-Séris, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Et 11 mois plus tard, voilà ce qui lui arrive, alors qu'il vient de mettre une pichenette dans le magazine d'un camarade dans le dortoir.
Je me suis fait choper par le pion et il m'a foutu dehors. J'ai pas pu me rhabiller en fait, et je me suis senti empoigné. Et ce surveillant lycéen à l'époque, il m'a empoigné, il m'a ramené au perron. Il m'a tarté et voilà, d'un coup de pied, il m'a fait tomber au sol. Et comme j'avais froid, ben, comme j'ai dit dans ma déposition, j'ai jamais senti le sol aussi dur. J'ai demandé une carte téléphonique, si quelqu'un en avait une, j'ai appelé mes parents.
Il appelle donc ses parents en pleine nuit après avoir été amené au perron. Mais qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une sanction que tous les élèves de Bétaram connaissent. Ceux qui sont punis doivent aller dehors, sur le perron, près de la rivière, en t-shirt et en slip, souvent de nuit, pendant une ou plusieurs heures, debout ou à genoux. Et bien sûr, il ne fallait pas bouger.
Oui, et à partir de ce moment-là, les parents de cet enfant qui a donc perdu 40% de son audition, ses parents décident de déposer plainte.
Exactement, pour coups et blessures volontaires. Le père de la victime doit alors démissionner de l'association des parents d'élèves dont il était le vice-président. Et localement, un comité de soutien est créé pour défendre l'établissement. À la tête du comité, l'avocat Serge Legrand déclare alors, je cite, que la solidarité à Bétaram, c'est plus fort que la franc-maçonnerie.
Et à l'époque, cette affaire, elle fait la une des médias.
Comme on l'entend dans ce journal de 20h sur Antenne 2, le 10 avril 1996.
Polémique à l'Estel le Bétaram, près de Pau, le père d'un élève de 14 ans, inscrit dans un collège privé, a déposé plainte pour coups et blessures volontaires et traitements inhumains et dégradants.
Depuis deux jours, les gendarmes enquêtent à l'école Notre-Dame de Bétaram parce qu'un élève a osé parler de la gifle donnée par le surveillant.
Et cette affaire, on en parle d'autant plus que le fils du ministre de l'Éducation nationale à l'époque, François Bayrou, est élève justement dans la classe du collégien qui a été giflé.
Oui, et cette affaire va provoquer une très vive réaction aussi au sein de Bétaram, dirigée alors par le père Caricard, comme le raconte l'ancienne professeure de maths, Françoise Gulong.
Tous les profs ont été réunis par le père Caricard pour nous dire qu'il était absolument exclu qu'on puisse parler de tout ça à qui que ce soit, ni aux journalistes, ni à nos familles, ni évidemment à la gendarmerie, ni à personne, que si on venait nous interroger, nous disions que nous n'en savions rien. J'ai trouvé ça très choquant, je le lui ai dit. Et donc, probablement le soir même ou le lendemain, je suis partie à la gendarmerie.
Et voilà comment ça s'est passé ensuite, selon elle.
Le gendarme que j'ai vu me dit... Oui, on sait que c'est un peu dur. Et puis, je crois qu'il a pris une note, il a gardé mes courriers. Et puis, il s'est rien passé.
Mais malgré tout, cette affaire de gifle, on l'a dit, elle fait quand même des vagues. Et il va y avoir une enquête menée par l'Éducation nationale.
Dont le ministre était donc François Bayrou. Et c'est comme ça que le 12 avril 1996, un inspecteur pédagogique se rend sur place pour contrôler l'établissement. Et voici la conclusion du rapport dont nous avons fait lire un extrait.
Les récents événements qui concernent un enfant, d'ailleurs toujours élève du collège, ne doivent pas masquer la vérité. Notre-Dame de Bétaram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. Tous ceux que j'ai entendus, qui parlaient en qualité de délégués, sauf un qui a été plus nuancé, ont dit clairement qu'ils vivent très normalement leur scolarité, sans subir de châtiments corporels et dans un climat de confiance.
Oui, donc là, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Et cet inspecteur, vous l'avez retrouvé, Marion?
Oui, il se prénomme Camille. Il a aujourd'hui 88 ans. Il explique que ce n'était pas une inspection surprise. Une date avait été fixée avec la direction de Bétaram.
Les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit ce qui s'était passé là pour cette histoire de gifle. Ils ne m'ont pas dit autre chose que ça. Et donc, je n'ai pas cherché à savoir... ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. Et personne ne m'a laissé penser qu'il y avait autre chose que ce que je voyais, moi. Donc, j'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement. Pour moi, je suis reparti de l'établissement en ignorant totalement ce qui, actuellement, est reproché.
Et donc lui-même reconnaît que son rapport ne tenait pas la route, sauf qu'à l'époque, ce travail, il est présenté comme crédible.
D'ailleurs, François Bayrou s'est rendu sur place le 4 mai 1996 en présence du ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy. Ce jour-là, ses propos ont été rapportés dans un article de la République des Pyrénées. Nous les avons fait lire.
Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours.
Mais le reste, c'est-à-dire la plainte déposée par les parents d'élèves de l'enfant giflé à Bétaram, mais elle a donné quoi cette plainte?
Alors le surveillant en question a été condamné à une amende de 5000 francs avec sursis et il est resté en poste comme surveillant général. Il faut également savoir qu'à la suite de cette affaire, la professeure de maths Françoise Gulung, elle a reçu des menaces et elle a fini par quitter Bétaram.
Mais ce qu'il faut dire aussi, Marion Aquilina, c'est qu'en fait, 3 ans plus tôt, il y avait déjà eu une affaire de gifle assez similaire au sein de l'établissement, sauf que à l'époque, elle n'a pas été médiatisée.
Et c'est ce qu'a révélé Mediapart le mois dernier, notamment le journaliste Antoine Rouget du pôle enquête du site d'investigation en ligne.
En 1993, il y avait déjà eu une décision de justice sur des faits visant un autre surveillant de Notre-Dame de Bétaram qui a conduit le tribunal de Pau à ordonner auprès de Notre-Dame de Bétaram de verser une provision de 10 000 francs de dédommagement au père d'un élève de l'internat de Notre-Dame de Bétaram qui avait lui aussi reçu une gifle entraînant une perte auditive extrêmement lourde. Donc l'établissement à ce moment-là va se tourner vers la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour lui demander de compenser finalement le dédommagement qu'elle doit verser au père de la victime, considérant que parce qu'elle est un établissement sous contrat, donc lié avec l'État, l'État doit, en solidarité, contribuer au paiement de cette amende.
Mais aujourd'hui encore, on ignore si finalement l'État a payé tout ou partie de l'amende. À la même période, toujours selon Mediapart, 2 autres enfants ont eu les tympans percés, des signalements qui n'ont rien donné.
Ce qui semble donc indiquer qu'avant 1996, l'État était au courant de cette violence au sein de l'établissement et les représentants de l'Église, ils en disent quoi?
L'évêque du diocèse de Bayonne-Lescar-Oloron, c'est Mgr Pierre Moller, il était à ce poste entre 1986 et 2008 et c'est donc lui qui était censé superviser Notre-Dame de Bétaram, mais il explique qu'à l'époque, c'est un autre ecclésiastique qui s'en occupait.
Pour moi, j'avais tellement d'autres choses à faire. Bétaram, pour moi, c'était à part. Je déléguais et je laissais le supérieur provincial faire ce travail de tutelle. J'ignorais tout. Ce qu'était l'ambiance du collège de Bétaram, ça m'a échappé totalement.
Ouais, ça lui a complètement échappé. Et François Bayrou, alors, quels sont ses liens avec Bétaram?
Son épouse donne des cours de catéchisme pendant un temps là-bas, on l'a dit. Et François Bayrou est surtout parent d'élèves, puisque plusieurs de ses enfants y ont été scolarisés. Et en 87-88, un lycéen qui s'appelle Rodolphe se souvient d'avoir croisé l'une des filles de François Bayrou. Lui était en première, elle en terminale. Et ce qu'il s'est passé un jour en salle d'études l'a particulièrement marqué.
Et un jour, ce qui n'était pas fréquent dans l'étude des premières, le pion a mis un vrai aller-retour fort à un élève, une grosse gifle. La réaction, généralement, c'est que tout le monde baisse les yeux. Et moi, je me suis retourné vers cette machinale, vers mademoiselle Hélène Bayrou. Et j'ai vu son regard de surprise et d'effroi de voir ça. Et je pense que c'était la première fois qu'elle assistait à ça. Je serais surpris qu'elle n'en ait pas parlé chez elle, qu'elle en ait parlé, serait dans la logique des choses.
Bon, et François Bayrou, qu'est-ce qu'il dit tout ça?
Lorsqu'il a été interpellé à l'Assemblée le 11 février dernier sur les violences à Bétaram, voilà ce qu'il avait répondu.
Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme, je n'ai jamais été informé ou de violences a fortiori sexuelles, jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux.
Alors pour cette enquête, nous avons contacté François Bayrou. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions, ne voulant pas participer, je le cite, à ce genre de surenchère. Et il ajoute, la manœuvre politique est maintenant comprise de tous. La justice a rejeté les plaintes et je suis le seul à avoir rencontré les victimes.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous dans un instant. On va voir comment l'affaire Betarame va prendre encore une autre ampleur avec la mise en cause d'une figure de l'établissement. En 2017, elle a fait une apparition dans la série Twin Peaks de David Lynch en jouant son propre rôle, l'américaine Sharon Van Etten, et son dernier titre, Idiot Box.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur l'affaire Betarame. On a vu que certains très rares enseignants avaient tenté d'alerter en vain sur ce climat de violence. Et en 1998, Marion Aquilina, c'est un nouveau coup de tonnerre au sein de l'établissement.
Oui, avec cette fois la mise en cause du père Pierre-Sylvier Caricard. C'est une figure de l'établissement. Il y a été professeur de philosophie et directeur dans les années 70, puis de 1987 à 1993. Et en 1997, le procureur de Pau reçoit une plainte d'un ancien élève qui dit avoir été violé quand il avait 11 ans par le père Caricard. Le dossier est instruit par Christian Mirande, qui vit dans le même village que François Bayrou. Les deux hommes se connaissent bien. Et selon Christian Mirande, François Bayrou vient alors chez lui.
C'était une entrevue où il a été question de son fils, qui était élève à Betarame. Moi, je l'avais rassuré pour son fils. Je n'ai rien dit à M. Bayrou qui ait pu faire penser que j'abordais le secret d'instruction. Du tout. Nous n'avons parlé que de ceux qui avaient été exposés dans la presse. Il avait du mal à croire que Caricard ait pu commettre des faits aussi ignobles. Je ne sais pas s'il le connaissait avant, mais en tout cas, c'était énorme pour lui. Et je l'en avais dissuadé en lui disant que les faits étaient patents et établi.
Ouais, donc pour le juge d'instruction, cette affaire est très sérieuse. Et que dit le père Caricard ?
Là-dessus, écoutez à nouveau Christian Mirande.
Quand je l'ai eu devant moi, il a contesté ces faits de la manière d'un ecclésiastique qui est pris en faute en tapant dans le pot de confiture, c'est-à-dire avec un discours très calme, très ecclésiastique. C'était presque un prêche.
Ouais, il conteste, mais le juge le met quand même en examen.
C'est ça, mais juste avant ça, à l'issue de la garde à vue du père Caricard, il va se passer quelque chose d'assez inhabituel, selon le gendarme chargé de l'enquête, Alain Antan.
Je conduis Caricard au palais de justice.
Monsieur Mirande m'attendait
devant sa porte. Il vient me voir et il me dit, Monsieur Onta, on va retarder la présentation. Le procureur général demande à voir la procédure que j'avais sous le bras. Il y a une intervention de Monsieur Bayrou. Et donc, on attend jusqu'à 16h, 16h30. 16h30, Monsieur Miranda vient me revoir, on patientait dans le couloir. Il vient me revoir en me disant, bon, on va pouvoir y aller. Et là, je fais rentrer Caricard dans le bureau de Monsieur Miranda. Une intervention du procureur général avant une présentation, c'était la première fois que ça m'arrivait.
Et le juge d'instruction à l'époque, est-ce qu'il confirme que François Bayrou aurait tenté d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la procédure ?
Non, il explique qu'il ne se rappelle plus. Le procureur général à l'époque, lui, est décédé. Et interrogé à l'Assemblée là-dessus, François Bayrou dément. J'ajoute qu'une plainte a été déposée pour entrave à la justice par un avocat palois qui est aussi élu d'opposition à la ville de Pau.
Bon, et qu'est-ce qu'il devient alors, le père Caricard, ensuite ?
Il est placé en détention provisoire, mais son avocat fait appel. Et en juin 98, il est libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du département des Pyrénées-Atlantiques et de la France.
Mais sauf que cette interdiction, elle va être levée.
Oui, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans un arrêt de la chambre d'accusation de Pau, daté du 29 juin 99 et dont nous révélons le contenu exact. Le père Caricard peut désormais quitter le département et la France, et cela à la demande du procureur général.
Et c'est comme ça que le père Caricard retourne à Rome, au siège de la congrégation.
Oui, il vient d'être renouvelé dans ses fonctions d'économe général de la congrégation des pères de Bétharram. Et pour l'ancien juge Christian Mirande, cette décision est incompréhensible.
La remise en liberté de Caricard m'avait choqué. D'autant plus qu'elle lui permettait de partir et d'aller dans un pays étranger. J'étais choqué pour la poursuite de l'enquête.
Et un an plus tard, Marion, l'affaire prend un nouveau tournant.
Oui, puisqu'il y a une nouvelle victime de viol présumé sur mineur. En janvier 2000, le juge Mirande convoque à nouveau le père Caricard, qui décide alors de se suicider. Son corps est retrouvé dans les eaux du Tibre à Rome. L'information est notamment relayée dans le 19-20 de France 3 Bordeaux à l'époque.
Le père Sylvier Caricard a mis fin à ses jours alors qu'il se trouvait à Rome. Son corps a été formellement identifié après avoir été repêché dans le Tibre. Ancien directeur de l'institution Notre-Dame de Bétharram, il avait été mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans.
Et les obsèques du père Caricard vont avoir lieu à Bétharram.
Oui, plus précisément dans le gymnase de l'institution le 10 février 2000, devant une foule importante, loin du regard de la presse, considéré comme responsable de la mort du prêtre basque. Des obsèques en présence de l'évêque du diocèse, Mgr Moller.
C'était quand même un homme qui avait été supérieur de Bétharram. Donc je ne pouvais qu'être par solidarité pour la congrégation. N'oubliez pas que cet homme s'est suicidé à Rome. Et donc ils étaient très marqués, les religieux. Ils étaient plusieurs religieux. Il y avait beaucoup de parents, tous. Vraiment, il y avait une impression de chagrin. Mon homélie a été, c'est un drame qui s'est passé, il faut tourner la page et il faut continuer de l'avant. Je n'ai pas canonisé le père Sylvie Caricard.
Ouais, il ne l'a pas canonisé, mais on comprend mieux avec ce témoignage ce que représentait à l'époque le père Caricard.
Et même auprès d'Alain Bourillon, l'ancien professeur de français latin pendant 18 ans à Bétharram et qui a tenté d'alerter en vain sur les violences, on l'a entendu en début d'émission. Mais avec le recul, il se souvient que les surveillants violents étaient systématiquement couverts par le père Caricard.
C'était un petit homme rond, affable, souriant, avec plein d'humour. J'aurais jamais pensé qu'il y avait le Mr. Hyde qui se cachait derrière. Mais il y avait quand même parfois des attitudes, des mains passées dans le dos. C'était trouble, voilà, on était troublés. Maintenant que je sais malheureusement que c'était un homme à double visage, oui, il ne voulait surtout pas que le système s'effondre.
Il ne voulait pas que le système s'effondre, et c'est un peu ce qui semble se passer aujourd'hui.
Oui, depuis qu'il a créé un groupe Facebook à l'automne 2023, Alain Esquer a reçu de très nombreux signalements de victimes de Bétharram. Une enquête judiciaire est en cours, ainsi qu'une commission d'enquête parlementaire. Et selon le procureur de Pau, 15 anciens élèves de Bétharram se disent aujourd'hui victimes du père Caricard.
Merci Marion Aquilina pour cette enquête en partenariat avec Ici Berne Bigorre que vous pouvez retrouver en longueur avec photos et documents sur notre site et sur l'appli Radio France avec également les dessins de Nicolas De Witt et une carte interactive réalisée avec le réseau Ici, Bénédicte Courret et Raphaël Canezan de la cellule Investigation pour visualiser et comprendre tous les autres scandales qui s'apparentent à Betaram un peu partout en France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Corentin Rouchy. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.